Le bilan de cette expérimentation.
Après le journal, l'éditorial de Guillaume Tabar, suivi de l'invité de la matinale, aujourd'hui, le politologue Thierry Garcin, qui a publié Géopolitique de l'Arctique chez Economica. On parlera évidemment du Groenland, de la réaction européenne et plus généralement de l'extrême nord de la planète. Pourquoi tant de convoitises ? Et à la une de ce journal, un bazooka face aux menaces de Donald Trump.
Le président américain a menacé ce week-end 8 pays, dont la France, de droits de douane supplémentaires de 10 à 25% jusqu'à ce qu'un accord soit conclu pour la vente et intégrale et complète du Groenland. En réponse, Emmanuel Macron appelle donc à activer contre les États-Unis cet instrument anti-coercition de l'Union qui s'appelle donc le bazooka ou arme nucléaire économique. Ce sera l'objet d'un sommet européen extraordinaire jeudi et ce n'est pas le seul outil de riposte à disposition. Tout le monde.
Après l'humiliation, la revanche. L'été dernier, l'Union européenne avait accepté que la majorité des biens européens soient taxés à 15% par les États-Unis contre la levée des droits de douane sur des centaines de produits américains. Pour entrer officiellement en vigueur, cet accord commercial doit être voté à Strasbourg d'ici un mois ou deux, un vote que le Parlement européen compte bloquer, explique l'eurodéputé allemand du groupe des Verts, Sergueï Lagodinsky.
C'était un accord de partenariat. Il n'y a pas de partenariat si l'une des parties met la pression sur l'autre pour qu'elle sacrifie un territoire. C'est pourquoi cet accord est nul et non avenu aussi longtemps qu'il y aura des droits de douane supplémentaires.
L'Union européenne pourrait aussi viser les géants du numérique américain pour l'eurodéputé Renaissance Stéphanie Yonne-Courtin.
J'implore la Commission européenne à appliquer nos textes. Le DSA, le DMA, on a déjà des ressources. Une taxe numérique pourrait entrer dans ce cadre large de l'instrument anti-coercition, mais attention, c'est politiquement sensible, juridiquement complexe et puis c'est potentiellement escalatoire.
93 milliards d'euros de marchandises américaines sont également prêtes à être taxées. Ces tarifs douaniers ont déjà été votés l'année dernière. Il suffit de les réactiver, plaide un membre du Parlement européen.
L'accès à Internet de nouveau très limité hier soir en Iran après un bref rétablissement. Les bilans tenus par différentes organisations d'opposition annoncent entre 3 000 et 20 000 morts désormais dans la répression. Et puis le bilan s'alourdit encore ce matin après le déraillement d'un train puis une collision dans le sud de l'Espagne. On dénombre 39 morts et des dizaines de blessés, dont certains graves. Un train qui assurait la liaison Madrid-Malaga a déraillé avant de percuter un autre convoi, le faisant également dérailler.
L'autre grand titre de l'actualité, c'est le probable dénouement du feuilleton budgétaire.
Avec un conseil des ministres convoqué aujourd'hui, à l'issue duquel nous saurons si le gouvernement compte recourir au 49-3 ou appliquer son budget par ordonnance. Rien n'est exclu, a prévenu la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjot. Sur la méthode, donc, le suspense demeure, mais sur le fond, le projet de budget est désormais largement connu. D'ailleurs, Sébastien Lecornu a fait plusieurs annonces vendredi et hier soir, il a précisé ses arbitrages sur les recettes, Zoé Pallier.
Dans une lettre adressée au patronat hier soir, Sébastien Lecornu a fait notamment deux annonces. La première concerne la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Elle devait baisser cette année. Finalement, elle sera maintenue à son niveau de 2025 et rapportera 8 milliards d'euros. Seul changement, les entreprises de taille intermédiaire de moins de 5 000 salariés seront épargnées. Il n'y aura pas non plus de baisse de la CVAE pour cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Des mesures salué par les socialistes. D'ici moins de 10 jours, ça peut être terminé, se félicite un cadre du PS, soulagé d'entrevoir la fin du marathon budgétaire. Réaction plus amère au centre et à droite. Lecornu accède à toutes les demandes des socialistes, soupire un président de groupe parlementaire. Augmenter la pression fiscale sur les entreprises plutôt que de baisser les dépenses est une erreur. Ça aura des conséquences économiques, estime Philippe Juvin, député Les Républicains et rapporteur du budget.
Et autre annonce sous confirmation, le gouvernement s'engage aussi à ne pas toucher aux allocations pour les personnes en situation de handicap. Les bourses étudiantes sont maintenues pour tous les étudiants et le repas à 1 euro au restaurant universitaire sera bien mis en place à compter du mois de mai. Pas de réforme non plus de l'abattement de l'impôt sur le revenu de 10% pour les retraités.
Radio Classique 8h04. Et cette question, faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ?
Le texte arrive aujourd'hui en séance à l'Assemblée, une proposition de loi qui s'accompagne d'une autre mesure, l'interdiction du portable au lycée dès la prochaine rentrée, comme le souhaite le gouvernement. Au-delà de sa pertinence, ce possible bannissement donne déjà des maux de tête aux directeurs d'établissement en raison de la logistique, de l'organisation qu'elle requiert. À Sommières dans le Gard, en tout cas, le lycée Lucie Aubrac mène depuis 3 ans une expérimentation pour que les élèves se passent de leur téléphone. Le reportage de Rémi Vallès.
À l'entrée du lycée, Lucas et Mathis, élèves de seconde, rangent leur portable dans une pochette scellée grâce à un système d'aimant. Impossible de l'ouvrir sans passer par une borne spécifique.
La journée, on n'a que le droit de le sortir entre midi et deux et à la sortie du lycée.
Comme ça, au moins, on peut plus discuter. Quand même, on est plus concentré quand il n'y a pas de téléphone. Que là, on est plus dans le cours à écouter. C'est mieux, je trouve.
Mais tous les lycéens ne sont pas aussi convaincus par cette interdiction, explique la proviseure Béatrice Hubert.
Ce système, il est intéressant. Maintenant, il pose la question de la responsabilisation des élèves parce que les élèves nous disent mais en collège, la loi existe et on n'a pas de pochette. On est autonome, on nous fait confiance. Pourquoi en lycée, on aurait des pochettes? J'entends cette interrogation.
Pour David Cayuela, professeur de lettres à l'origine de cette mesure, l'interdiction du portable n'est pas qu'une question de pédagogie, mais bien de santé publique.
Ces 7 dernières années, j'ai vu apparaître des comportements de crise de l'attention. J'en ai conclu qu'on vivait un virage en classe de première. Il y a environ 5 ans encore, j'avais sur 25 élèves qui lisaient l'œuvre intégrale. Aujourd'hui, c'est moins de 5. Donc, on est en difficulté.
L'enseignant plaide avant tout pour plus d'éducation numérique, car généraliser l'interdiction du téléphone, c'est aussi prendre le risque de déresponsabiliser les familles.
Ils auront peut-être le droit néanmoins d'utiliser leur téléphone pour Parcoursup. L'inscription des vœux démarre cet après-midi pour tous les élèves de terminale et les étudiants en réorientation. Ils doivent faire un choix avant le 12 mars parmi 25 000 formations.
Le Louvre sera-t-il ouvert au public aujourd'hui? Les salariés se réunissent en Assemblée générale pour décider de la poursuite ou non de la grève.
Oui, le mouvement est enclenché depuis plus d'un mois maintenant et s'est déjà traduit par 5 jours de fermeture totale ou partielle. La liste des revendications est longue. Certains syndicats insistent sur les questions budgétaires, les salaires, les conditions de travail. D'autres critiquent surtout la gouvernance de la présidente Laurence Descartes, très critiquée depuis le vol des joyaux de la couronne au mois d'octobre dernier. Christian Galani est le délégué CGT du Louvre.
La colère, elle anime tous les agents. Le 15 décembre, nous étions plus de 400 à nous prononcer pour la grève. Lundi dernier, nous étions plus de 300. Et je crois que nous avons aussi beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de visiteurs qui nous disent, mais au regard de la crise qu'a traversée le musée du Louvre, la dégradation de nos conditions de travail, les 200 emplois que nous avons perdus ces 15 dernières années, qui est surtout des manifestations de solidarité à l'égard des personnels en lutte. Je suis persuadé que nous sortirons victorieux et ça aura aussi des conséquences pour les visiteurs eux-mêmes qui pourront visiter un musée qui ne sera plus délabré.
Voilà, et plusieurs médias ont dévoilé la vidéo du spectaculaire cambriolage des joyaux, des images inédites issues des caméras de surveillance. D'un mot, le coup d'envoi de l'Open d'Australie, premier tournoi de Grand Chelem de la saison en tennis. Les numéros 1 mondiaux, Carlos Alcaraz et Arina Sabalenka se sont qualifiés pour le deuxième tour. Venus Williams, en revanche, s'est inclinée il y a 28 ans qu'elle débutait dans ce tournoi qu'elle a remporté 7 fois. Et puis le prince Harry, lui, est de retour devant la justice à Londres pour son combat contre les tabloïds. Il attaque l'éditeur du Daily Mail qui l'accuse d'avoir obtenu des informations sur sa vie privée de façon illégale. Il sera d'ailleurs présent jeudi toute la journée et devra témoigner donc à cette occasion.
La croisade anti-tabloïde du prince Harry, Hervé Gattegnaud, y reviendra un peu après 8h30 dans sa revue de presse. Merci Lénaïque, à demain. À suivre, Guillaume Tabar pour l'éditorial avec le Figaro. Guillaume qui évoque les concessions du Premier ministre au Parti Socialiste. A-t-il vraiment tout lâché? Il va nous le dire dans un instant. Radio Classique, 8h08.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous échos de la matinale de Radio Classique.
Distingo Bank, l'épargne en toute simplicité.
À ton tour, et joue ton meilleur coup.
Je l'ai déjà fait.
Ah oui? Avec ta tour ou ton cavalier?
Non, j'ai ouvert un livret Distingo Bank avant de venir. Taux boosté, plus une prime de bienvenue, stabilité, vision, sécurité.
Tout ce qu'il faut pour pas se faire mater.
Oh, et moi qui pensais avoir l'avantage.
Tu l'avais? Avant que je joue Distingo. Oh. Allez, ressaisis-toi. Va sur distingobank.fr.
Offre soumise à condition, taux promotionnel en vigueur pendant 3 mois dans la limite du plafond. Voir conditions sur distingobank.fr.
T'es où?
Je me suis perdu. Trop d'offres.
Bah, on est là pour les soldes.
T'inquiète, j'ai déjà réservé une croisière Costa, tout inclus.
Ok, on se retrouve à la sortie alors.
Ne ratez pas les soldes Costa. Réservez votre croisière d'été avant le 3 février avec 300 euros de réduction par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offerts.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2 700 €. Prix maximum Certinergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offerts. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
Votre facture, monsieur Martin, mais elle est bloquée par notre logiciel. Bah oui, vous avez bien pensé à mentionner les 17 chiffres des numéros de commande, mais vous avez oublié la lettre C. Bah oui, monsieur Martin, C comme commande, forcément.
Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2025, le cabinet Arc a réalisé 1,2 milliard d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07. 01 46 03 07 07.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météo, ça le débute, hein. Elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non ?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour.
Bonjour David.
Alors, question, hein, c'est comme être ou ne pas être. 49.3 ou ordonnance, on le saura dans la journée, mais en toute hypothèse, peut-on dire que sur le budget, c'est mission accomplie pour Sébastien Lecornu ?
Bah, mission accomplie, oui, dans la mesure où après ces annonces de vendredi et après la réaction des socialistes qui, sur cette base, semblent confirmer qu'ils ne censureront pas le gouvernement, oui, le budget va être finalement adopté, et sans doute avec le 49.3, puisque le PS reste très hostile au principe des ordonnances. Mission accomplie donc, mais à quel prix ? C'est en fait ça, la vraie question. Sur la forme déjà, Sébastien Lecornu s'était engagé à renoncer au 49.3, donc à parvenir à ce que ce texte puisse être voté à l'Assemblée. Ce ne sera pas le cas et il a dû se résoudre à en prendre acte. Et puis sur le fond ensuite, on est bien obligé de constater qu'une fois encore, c'est en cédant aux exigences du PS qu'il échappe à une censure. Drôle de bilan, car en principe, quand on fait des concessions, c'est pour éviter de passer en force, et quand on passe en force, c'est pour éviter d'avoir à faire des concessions. Eh bien là, Lecornu fait les deux.
Avec un risque de budget socialiste, disons les choses, pour un Premier ministre qui ne l'est pas. Le Premier ministre qui se défend pourtant d'avoir cédé au Parti Socialiste, il met en avant un compromis obtenu en accordant des mesures à tous les groupes.
Ah oui, c'est vrai que dans son intervention vendredi soir à Matignon, il a souligné tout ce qui était de nature à satisfaire tous les groupes. Le maintien de l'abattement fiscal pour les retraités, ça c'est pour LR. Le maintien des allègements de charges pour les entreprises, ça c'est pour Renaissance. Mais quand même, hein, le gros des concessions, c'est au PS qui les a faites. L'augmentation de la prime d'activité, les repas à 1 € pour tous les étudiants, la mesure pour les bailleurs sociaux, l'augmentation du fonds vert. Tout ça, ça fait quand même à l'arrivée des milliards de dépenses en plus. Dans un budget qui, il faut quand même le rappeler, était initialement censé trouver des économies et réduire les déficits. Eh bien, ce paquet budgétaire offert au PS pour prix de sa non-censure, il s'ajoute, et ça aussi il faut le rappeler, à la suspension de la réforme des retraites dans le budget de la Sécu.
Dans le même temps, Sébastien Lecornu a promis de ramener le déficit à 5% du produit intérieur brut, n'est-ce pas aussi une bonne nouvelle pour le budget ?
Écoutez, un budget, vous savez, c'est simple, hein, ce sont des recettes et ce sont des dépenses. Et l'écart entre les deux, ça s'appelle le déficit. Eh bien, un enfant de primaire peut faire lui-même l'opération. Plus de dépenses et moins de déficit, ça n'est possible qu'avec plus de recettes. Et vous savez, dans le budget d'un pays, les recettes, ça porte un nom, ce sont des impôts. Et comme personne ne veut, et heureusement, taxer les ménages, eh bien, ce sont les entreprises qui vont payer. Rien que la surtaxe sur l'IS, vous savez, hein, qui n'avait été faite que pour 1 an, promis juré, et qui, bien sûr, est prolongée, elle va rapporter 8 milliards d'euros. Alors, à l'arrivée, si on fait le bilan, le PS n'a rien lâché, jamais. Le gouvernement, lui, a tout cédé. Et de Renaissance à LR, on laisse passer. Parce que, comme le dit Gabriel Attal dans Le Parisien, il est temps d'en finir. Le budget sera donc adopté, mais de guerre lasse et sans gloire.
Et c'est sans compter l'impact des décisions tarifaires de Donald Trump sur l'économie française et les entreprises. Guillaume Tabar, l'éditorial avec Le Figaro, à retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube de Radio Classique et sur lefigaro.fr, bien évidemment. Mon cher Guillaume, à demain.
À demain.
Et maintenant, l'invité de la matinale. Il est politologue, chercheur associé à l'Université de Paris, maître de conférences à HEC, et il a publié Géopolitique de l'Arctique aux éditions Economica. Avec lui, on va s'intéresser à l'extrême nord de la planète. Pourquoi tant d'intérêt et de convoitise? Thierry Garcin, bonjour.
Et bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Thierry Garcin, si on vous avait dit qu'un jour il y aurait une escalade entre l'Europe et les États-Unis pour empêcher ces derniers d'y planter leur drapeau, l'auriez-vous cru?
Non, je ne l'aurais pas cru, évidemment. J'aurais été quand même inquiet au début de la première présidence Trump, où il a dit, au fond, le Groenland, ce serait une formidable, en ricanant d'ailleurs, il ne les croyait pas si bien dire par rapport à lui-même, ce serait une formidable entreprise immobilière et ce serait un gain fantastique sur le plan immobilier. Vous rendez compte un peu l'approche des relations internationales. C'est à la fois la rapacité à l'égard d'un territoire qui n'est pas un territoire européen, mais qui est un territoire d'un pays européen, évidemment le Danemark, et la cupidité. C'est-à-dire que nous sommes dans des relations internationales complètement inversées. Tout est à l'envers. Vous avez les États-Unis, on vient d'en parler. Vous avez la Russie qui accuse l'Ukraine d'être fauteur de guerre. Vous avez le secrétaire général de l'OTAN, M. Rutte, qui croit bon d'applaudir à tout rompre à la violation du droit international. Le secrétaire général de l'OTAN qui va nous parler des valeurs de l'OTAN un jour. Et c'est évidemment l'attaque des États-Unis contre l'Iran, totalement illégale, quoi qu'on dise. Et puis, il y a Madame von der Leyen, alors Bruxelles, en général, qui commence à dire qu'ils veulent renforcer l'OTAN. Alors, on est dans des situations schizophréniques. Il faut renforcer l'OTAN, or le patron de l'OTAN est en train de vouloir nous prendre un territoire d'un pays membre de l'Union Européenne. Donc, on est dans une pour nous, c'est complètement dépaysant, et c'est à peu près incompréhensible cette façon dont le président Trump, c'est vraiment l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Et surtout, le plus important, et quoi qu'on dise, le droit international existe, on n'a pas de solution de remplacement, et le droit international est, si vous voulez, un peu le code de la route du monde entier. Il est peut-être mauvais, mais le droit international doit être appliqué. Et là, tout part en éclat. Et de la part de l'ancien patron de l'Europe, c'est-à-dire les États-Unis.
Le droit européen, lui, pourrait s'appliquer à travers l'instrument anti-coercition. On découvre cette possibilité depuis ce week-end. Cette réponse européenne vous paraît-elle appropriée?
En tout cas, elle est nécessaire. Alors, c'est un instrument, comme on dit, qui date de 2023, qui n'a jamais été utilisé. Vous en avez parlé sur votre antenne tout à l'heure, qui permet d'avoir, par exemple, d'établir des quotas, d'établir des droits de douane, donc bloquer des investissements, en l'occurrence, évidemment, américains, et ainsi de suite. Et c'est utile, c'est nécessaire certainement. Simplement, l'Union européenne est une grosse machine, c'est quand même une quincaillerie, excusez-moi l'expression, une quincaillerie administrative, et ça va être long, ça va être difficile, il va y avoir des divergences. Dieu merci, l'Italie, dans l'affaire de l'Ukraine, arrête ses moqueries à l'égard des pays qui sont allés militairement, même symboliquement, c'était un symbole politique, ça a été très mal vendu par les pays intervenants il y a quelques jours. C'est un symbole politique, c'est tout. Ce n'est pas une opération militaire.
Vous évoquez la mission militaire européenne au Groenland.
Oui, il y a quelques jours.
Les 15 chasseurs alpins français.
Oui, et puis, je crois, sauf erreur, 6 pays de l'Union européenne et 2 pays hors Union européenne, la Norvège et le Royaume-Uni.
Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet, cette réponse symbolique? Je parle justement de cette fameuse mission au Groenland.
On a ricané parce qu'effectivement, ce n'est pas une mission militaire au sens propre du terme, c'est plutôt une intervention de repérage, de reconnaissance. Ça a été très mal vendu, comme s'il s'agissait tout d'un coup d'affirmer la souveraineté de l'Union européenne sur ou la souveraineté d'ailleurs du Danemark plutôt, sur le Groenland. Il y a eu des effets d'annonce tout à fait désastreux. Il fallait dire simplement que c'était symbolique et qu'il y avait une question de souveraineté qui était fondamentale. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire-là, c'est la, non pas la vague vacances, mais l'effet de sidération de l'Union européenne dans cette affaire-là, et le fait qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Et alors, ils sont dans une situation...
Bah, Thierry Garçon, ils sont oui. sidérés, ou alors ils mobilisent le fameux bazooka anti-coercition.
Oui, je suis pas sûr d'ailleurs que le terme de bazooka convienne, parce que il faut jamais dire qu'on a une arme, fatale, y compris dans le domaine nucléaire. Personne n'en sait rien. Donc, je crois que le fait d'utiliser sans arrêt le mot bazooka, finalement, déconsidère un peu l'éventuelle force de cet instrument de, comme on appelle, anti-coercition, qui était prévu d'ailleurs au départ à cause de la Chine. Mais on ne rentre pas dans les détails.
Venons-en au Groenland. Avez-vous compris ce que veut là-bas Donald Trump, qu'il naît déjà?
Ben oui, il n'a pas besoin d'occuper militairement le Groenland, il y est déjà sur place. Alors, on a ironisé en disant il y a 150 militaires américains dans la base de Thule, qui se trouve au nord-ouest, tout à fait très éloigné, au nord-ouest du Groenland. On a ironisé sur les quelques dizaines d'officiers européens. Les États-Unis sont déjà chez eux, ils n'ont pas besoin de contrôler. La base de Thule, c'est une formidable forteresse, comme on appelle d'alerte avancée, qui est destinée à essayer de repérer les missiles attaquants, les missiles balistiques attaquants. Alors, hypothèse d'école, bien sûr, provenant de l'Union soviétique avant et de la Russie aujourd'hui. Mais il ne faut pas négliger non plus dans cette équation internationale le rôle de la Chine, qui est très intéressant et qui me paraît d'ailleurs beaucoup plus astucieux, intelligent que celui de la Russie en la matière. Alors, quant à parler de la menace russe et de la menace chinoise sur le Groenland, ça n'a aucun sens.
C'était ma question. Oui, parce que ça n'a aucun sens. C'est l'argument qu'a brandi Donald Trump, c'est-à-dire il faut absolument...
Mais il ment comme à la rageur dedans, vous le savez bien.
Il faut absolument que je m'occupe du Groenland, parce que les Européens dans l'OTAN le font mal. Enfin, si je ne le fais pas, personne ne le fera. Alors que c'est un territoire parfaitement paisible et surtout qui n'est pas convoité, vous le dites, ni par les Russes ni par les Chinois.
Non, il est convoité pour les Chinois. Ils ont eu des vues sur les minerais et sur la construction, la rénovation d'aéroports récemment. À l'époque, il y a quelques années, les États-Unis ont mis le haut là, d'ailleurs très, très, très utilement. On nage dans des contradictions phénoménales et dans des situations diplomatiques schizophréniques. Quand je vois la France dire on va renforcer l'OTAN, le patron de l'OTAN, les États-Unis, on renforce l'OTAN au bénéfice de quelqu'un qui veut vous, excusez-moi l'expression, on est entre nous, qui veut vous chouraver un territoire. Alors on est dans une situation absurde, et ce qui me frappe, c'est l'absence de réaction communautaire, parce que encore une fois il y a deux pays non membres de l'Union européenne qui sont sur place, mais il n'y a pas les 27, et Madame von der Leyen elle dit très peu de choses, Madame Kallas, qui est la haute représentante pour la politique étrangère et les questions de sécurité, ne dit pas grand-chose, c'est-à-dire on est dans presque une vacance de réaction collective, et heureusement qu'il y a, il faut pas trop s'en moquer, heureusement qu'il y a la France, qu'il y a l'Allemagne, qu'il y a d'autres pays.
Bah, comme le Danemark.
Le Danemark, évidemment, percé, la Suède et ainsi de suite, heureusement.
Immense paradoxe, le Danemark est depuis de longues années un des principaux alliés européens des États-Unis dans leurs différentes guerres, ils sont assez mal payés de retour.
Ils paient un peu leur... Ils sont un peu les auteurs de leur malheur, parce que ils n'avaient de cesse que de nous dire que l'atlantisme, c'était la règle du jeu. Nous en savons, nous Français, depuis des décennies, quelque chose sur la relation transatlantique et la relation.
De Gaulle nous avait mis en garde.
De Gaulle nous avait mis en garde. Il était parti en 66 du commandement militaire intégré, qu'on a malheureusement réintégré commandement militaire sous Sarkozy, sauf erreur en 99, sauf erreur. Et donc le Danemark.
Vous êtes sûr? Pas sous Sarkozy.
Sarkozy,
c'est pas après 2007.
C'est 2009. Qu'est-ce que j'ai dit?
Vous avez dit 99.
Je vous remercie de me corriger. Non, non, mais les lapsus, on ne se les entend pas dire, c'est ça le problème. Alors, et merci beaucoup. Et puis, donc, ils ont été farouches alliés des États-Unis de Bush fils dans l'affaire de l'Irak 2003, Saddam Hussein. Ils ne sont pas, et c'est leur droit, dans l'euro. Ils n'étaient pas, et c'est leur droit, dans la politique étrangère européenne. Dès qu'il y a eu la guerre d'Ukraine, tout de suite, ils sont allés dans la politique étrangère et de sécurité communautaire. Enfin, ils veulent le beurre et l'argent du beurre à chaque fois.
Bref, les Danois étaient quasiment plus amis avec les États-Unis que ne le sont aujourd'hui les Anglais.
C'est poussé très loin le bouchon, mais d'une certaine façon vous avez raison. Mais c'est toute cette couronne atlantique au sens géographique du terme. Ça va de la Norvège qui n'est pas dans l'Union européenne, les Pays-Bas, le Danemark et bien sûr le Portugal. Ce sont des pays qui sont orphelins maintenant des États-Unis et ils nous ont fait la leçon sans arrêt dans leurs relations aux États-Unis. Il n'y avait rien de mieux et l'Union européenne était quelque chose de secondaire. Et bien maintenant ils sont coincés. Et en plus, tous ces pays sont souvent ferrés ou enferrés dans leurs relations avec la Russie à cause de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont jamais imaginé de plan B. Dans la vie, dans les relations internationales, non seulement il faut imaginer un plan B, quand on a un plan A, mais généralement dans la vie, et nous le savons tous, c'est le plan C qui arrive, celui qu'on n'avait pas prévu. Et bien là, ils sont, excusez-moi, un peu tout nus.
Thierry Garcin est l'invité de la matinale de Radio Classique, il est l'auteur de Géopolitique de l'Arctique. On parle très peu des habitants du Groenland, parce qu'ils sont peu nombreux. 56 000, 57 000. Est-ce qu'ils ont les moyens de faire valoir leurs droits? Ou imaginez-vous qu'ils vont de guerre là se vendre à Donald Trump?
Alors, je ne sais pas. Enfin, on ne sait pas, parce que c'est une approche bilatérale entre les États-Unis et le peuple groenlandais, qui est quand même relativement patriotique et qui a un patriotisme tout à fait remarquable, un patriotisme ethnique. Hein, ce sont des Inuits, ce qu'on appelait autrefois des Esquimaux, et ce sont des gens qui sont chez eux. Je suis désolé. Et donc ils peuvent devenir indépendants. Et ils avaient un slogan qui est complètement périmé aujourd'hui, un slogan qu'ils ont il y a un ou deux ans brandi, c'est-à-dire le Groenland dans le monde, rien sans le Groenland, sans le Groenland. Le seul ennui, c'est que le Groenland, de ce point de vue-là, est absent. C'est-à-dire, ils ont eu un patriotisme un peu à éclipse. Maintenant, ils se rapprochent évidemment du Danemark. Enfin, on n'aimerait pas être Groenlandais en ce moment.
Et pourtant, ils sont passés à une culture militaire depuis quelques années. Ils font des exercices militaires nationaux. Ils ne comptent pas uniquement sur le Danemark et d'éventuels protecteurs.
C'est un peuple de pêcheurs d'abord, c'est pas du tout un peuple combattant au sens guerrier du terme. 90%, 97% sauf erreur des exportations, c'est la pêche. Alors, ils peuvent devenir indépendants parce qu'ils ont une autonomie élargie depuis quelques années. Copenhague était d'accord pour qu'ils deviennent indépendants et ce n'est évidemment plus de saison puisqu'ils n'ont pas les moyens de leur indépendance, à commencer par les moyens financiers.
Thierry Garcin, vous avez publié Géopolitique de l'Arctique. En quoi cette zone géographique très vaste suscite-t-elle de plus en plus de convoitises?
Alors, parce que les enjeux sont multiples. Par exemple, des enjeux environnementaux, le réchauffement de la planète beaucoup plus sensible donc au pôle Nord pour simplifier. Ce sont des enjeux stratégiques, c'est-à-dire militaires, pour les États-Unis et pour l'ensemble des pays riverains, y compris la Russie, de riverains évidemment de l'Arctique. Ce sont des enjeux économiques avec le transport maritime. Ce sont des enjeux, on va dire, hydrocarbures que nous connaissons bien, pétrole et gaz, mais surtout gaz. Ce sont des enjeux transport maritime, je l'ai dit, minerais, minéraux. Surtout d'ailleurs au Canada et en Russie. Et ce sont des enjeux multiples, ce sont des enjeux interactifs et ce sont des enjeux pluridisciplinaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas isoler un enjeu parmi les autres. Ils sont tous un peu complémentaires les uns des autres.
Avec un paradoxe, c'est que plus il y a fonte des glaces, plus la circulation des bateaux est aisée et plus la prédation ou la surexploitation de cette zone s'accentue.
Oui, alors il faut voir ça sur le temps long parce que le passage du Nord-Ouest au-dessus du Canada est relativement négligeable et très difficile d'utilisation pour les marins, militaires ou civils, ou marchands. Le passage du Nord sur la Russie est dévolu à la Russie qui le fait très bien, mais il faut demander les autorisations normalement et pour profiter de brise-glace à propulsion nucléaire russe qui sont remarquables. Et ce qui est intéressant, voir ça à long terme, c'est la route, ce qu'on appelle transpolaire, c'est-à-dire délivrer justement de ces deux passages, le long du Canada et le long de la Russie. Vous avez un passage qui est en train de s'ouvrir d'ici 30, 40 ans, peut-être 20 ans ou 35 ans, peu importe, et selon les spécialistes, c'est-à-dire qu'on passera au milieu. Et dans ce cas-là, encore une fois, et les États-Unis ont cette vision-là géopolitique, l'Arctique est un océan, sera liquide, totalement liquide, seulement quelques mois de l'année, en été, hein, en été seulement, mais on pourra faire passer des bateaux du détroit de Bering à l'Atlantique réciproquement et autrement, sans aucune difficulté. Donc c'est une route transpolaire qui, la Méditerranée, ce sera une Méditerranée pour les Américains.
Thierry Garcin, au micro de Radio Classique. Je rappelle que vous avez publié Géopolitique de l'Arctique aux éditions Economica. Merci.
Et merci de votre invitation.
À bientôt. À suivre le rappel des titres, Charles Bonner, suivi de la revue de presse d'Hervé Gattegno. Et comme c'est lundi, nous allons retrouver Luc Ferry dans 15 minutes pour Esprit Libre.
Pour garantir la réussite de votre transformation, faites équipe avec Valtus, leader français et mondial du management de transition. Depuis 25 ans, nous sécurisons vos transformations et vos projets stratégiques. Valtus, c'est 60 000 dirigeants expérimentés dans 28 pays, mobilisables immédiatement. Partenaire de l'édito Eco, Valtus réalise plus de 1 000 missions chaque année.
Envie de vous offrir la qualité allemande à prix Opel?
Yes, of course.
Une Corse avec Apple CarPlay et Android Auto?
Yes.
À partir de 15 900 euros et jusqu'à 8 ans de garantie spéciale offerte?
Yes.
Rendez-vous en concession pendant les portes ouvertes pour vous offrir Opel Corsa.
Yes.
Offre réservée aux particuliers sur Corsa édition 100 chevaux. 5000 euros déduits non cumulables jusqu'au 31 janvier dans le réseau participant. Garantie spéciale Opel, détails sur opel.fr. IS égale oui. Pensez à covoiturer.
Maison Philippe.
Pour la succession, nous avions une myriade d'objets dont nous ne savions que faire.
Nous avons donc fait appel à la Maison Philippe.
Ils se sont déplacés.
Ils ont estimé le prix et ont payé comptant.
Ils ont tout débarrassé. Un vrai soulagement.
Objets chinois, livres, tableaux, sacs à main, montres, bijoux, bibelots, objets en or et en argent, même défectueux. Appelez la Maison Philippe au 06 07 58 23 23. 06 07 58 23 23. Maison Philippe, Antiquité Raspail, Paris 6e.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Charles Bonner pour le rappel des titres à 8h30.
Entre le 49.3 et les ordonnances, Sébastien Lecornu va annoncer son choix pour faire passer le budget faute de majorité à l'Assemblée nationale. Pour éviter la censure, il a annoncé de dernières concessions, pas d'impôt sur les ménages, le prolongement de la contribution exceptionnelle des entreprises. Le Parti Socialiste annonce qu'il ne censurera pas un conseil des ministres, se tient cet après-midi. La France défend la méthode forte contre les États-Unis en riposte aux droits de douane imposé à 8 pays jusqu'à la vente du Groenland. Cette solution, c'est l'instrument anti-coercition qui peut bloquer l'accès au marché public aux entreprises américaines. Un sommet extraordinaire va se tenir cette semaine, probablement jeudi. Et puis en Espagne, le bilan de l'accident ferroviaire grimpe à 39 morts, 123 blessés, dont 29 dans un état grave ou très grave. Hier, un train a déraillé dans le sud du pays avant de heurter un autre train. Les autorités évoquent un accident étrange sur un tronçon rénové avec un train quasiment neuf.
Charles Bonner, pour le rappel des titres, à demain, Charles. Sur Radio Classique, évidemment, il est 8h31, la revue de presse Hervé Gattegno. Hervé, bonjour.
Bonjour.
Dans la presse du jour, des appels à la résistance.
En une de la Croix, une manifestante iranienne qui s'est peint les couleurs de son pays sur le visage et une larme rouge sous son œil, rouge sang. La contestation écrasée, titre le quotidien catholique. Après 10 jours de répression et malgré le blackout imposé à l'Iran, tout porte à croire que le régime a atteint son objectif. La vague de colère s'est arrêtée net. Des milliers de manifestants sont morts, 3000 selon le pouvoir, au moins 20 000 selon la principale ONG iranienne. La population a peur. Samedi, l'ayatollah Khamenei a promis de briser le dos des séditieux. Beaucoup de contestataires se sont réfugiés en Turquie, d'où ils pleurent leur mort à distance, raconte le Figaro. À chaque nouvelle victime, la défiance envers le régime augmente, dit l'un de ses exilés. La République islamique finira par tomber. Un jour, nous rentrerons tous en Iran.
Dans Libération, deux grandes voix iraniennes dénoncent la violence du régime des Mollahs.
Le cinéaste Jafar Panahi, palme d'or à Cannes l'an dernier, dit sa sidération au vu de la vidéo de la morgue de Karizak qui a fait le tour du monde. « Je n'arrivais plus à respirer, dit-il. J'étais sous le choc total. Comment un régime peut-il massacrer son peuple avec des armes de guerre dans la rue? Ce régime est à bout de force. » L'avocate Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003, va plus loin. loin. Khamenei ne changera pas de méthode tant qu'il sera au pouvoir, dit-elle. Elle appelle clairement à éliminer l'ayatollah grâce à une intervention extérieure, comme les Israéliens l'ont fait avec le chef du Hamas l'an dernier à Téhéran. Shirin Ebadi reproche aux États européens leur inaction. Tout ce qu'ils font, dit-elle, c'est parler.
Les Danois aussi sont dans la rue pour protester. Eux veulent faire entendre leur opposition à la prise de contrôle du Groenland par les États-Unis.
Scène inouïe quand on y pense que ces défilés dans des villes européennes pour empêcher l'annexion d'un territoire de l'OTAN par le pays fondateur de l'OTAN. Le Figaro décrit ces défilés samedi à Copenhague et dans les grandes villes du Royaume. Des dizaines de milliers de Danois et de Groenlandais arborant des casquettes, détournant le slogan de Donald Trump « Make America Great Again » en « Make America Go Away ». Américains partaient à Nuuk, capitale du Groenland. Les Inuits ont eux aussi défilé en grand nombre. Les gouvernants européens, eux, cherchent la parade à l'offensive de Trump sur les droits de douane. Les Européens cherchent une réponse ferme au chantage de Trump, titre Les Échos. L'Europe prise au piège, titre L'Opinion. Il s'agit, écrit Le Monde ce matin, d'éviter le spectacle d'une Europe tétanisée. Pour l'éditorialiste du Figaro, Philippe Gély, c'est un combat politique que Donald Trump livre aux Européens, plus exactement aux démocraties européennes essoufflées, exposées à un basculement vers le national-populisme qu'il pratique chez lui. Ce combat n'est pas gagné.
On passe d'un royaume à l'autre. À Londres, le prince Harry poursuit en justice l'éditeur de deux des principaux tabloïds britanniques pour dénoncer les méthodes de la presse à scandale.
C'est à lire dans Le Parisien ce matin. Le procès s'ouvre aujourd'hui devant la Haute Cour de Londres. Le prince Harry règle ses comptes avec la presse People, qu'il tient pour responsable de la mort de sa mère, Diana, mais qu'il accuse aussi de racisme envers son épouse, Meghan Markle. Il a déjà fait condamner le Mirror en 2023 et obtenu des excuses publiques du Sun en 2025. Cette fois, sa plainte vise le Daily Mail et sur le banc des plaignants, le chanteur Elton John, l'actrice Liz Hurley et un ancien député sont à ses côtés. Le journal est accusé d'avoir acheté des données sous de fausses identités pour attenter à la vie privée de ces célébrités. On annonce 9 semaines d'audience et des frais de justice de 44 millions d'euros. Le prince Harry sera dans la salle aujourd'hui et demain, écrit Le Parisien. Il doit témoigner jeudi à la barre. Aucune rencontre n'est prévue à cette occasion entre le prince qui vit en Californie et la famille royale.
Les Échos rendent hommage à la célèbre marque de biscuits Lu qui fête cette année ses 180 ans.
La biscuiterie iconique résiste au temps et à la concurrence. Son chiffre d'affaires a bondi l'an dernier de 12,5% pour atteindre 900 millions d'euros. La marque, créée en 1846 à Nantes, est la maison mère du fameux petit beurre qui a contribué à faire le sien et d'une centaine d'autres références illustres dont le petit écolier, les pépitos et le prince, biscuit le plus vendu depuis 10 ans en France, que les Échos qualifient de star des stars, mais qui n'a rien à voir avec le prince Harry, je le précise. Lu se modernise, le groupe va lancer des biscuits à offrir pour la fête des mères, pour la fête des pères et la Saint-Valentin. Il va aussi lancer des galettes, ce qui devrait consolider la sienne. 8 foyers sur 10 consomment des biscuits de la marque. Les Échos nous apprennent que ce trésor de la gourmandise nationale est détenu depuis 2007 par un groupe américain, sans que personne n'ait dénoncé ce sacrilège ni manifesté contre cette annexion.
Luc Ferry, quand vous mangez un petit beurre, est-ce que vous commencez par les coins ?
Forcément. Forcément. On mange les doigts de pied, on appelait ça les doigts de pied quand on était petit, mais oui.
Ah, moi je disais les oreilles. Moi je disais les oreilles
des petits
doigts.
Ça ressemble à des petits doigts de pied.
On termine avec un étonnant article consacré au Nicaragua où les poètes subissent la censure et résistent en faisant passer clandestinement leurs textes.
Article étonnant et émouvant, extrait du quotidien espagnol El País, en version française sur le site du magazine Courrier International. La légende veut que le Nicaragua soit le pays au monde qui compte le plus de poètes au même mètre carré. Depuis la révolution sandiniste de 1979, on le surnomme la République des poètes. Mais aujourd'hui, la dictature de Daniel Ortega et de son épouse fait régner la terreur et la censure à coups d'arrestations et d'assassinats d'opposants. Pour échapper aux persécutions sans renoncer à leur art, des auteurs se transmettent leurs écrits par la frontière avec le Costa Rica. Ces écrivains, écrit El País, sont la seule force de résistance dans un pays où la dictature veut supprimer toute pensée critique. Près de la frontière, Camilo, un de ses poètes, demande « C'est toi le journaliste ? Si les gardes voient que tu trimbales des bouquins, ils vérifient tout, les pages, les titres, le contenu. Si quelque chose leur semble suspect, ils te refusent le passage ou ils t'envoient en prison. » Au Nicaragua, les poètes agissent dans l'ombre. S'ils se transforment en contrebandiers ou en trafiquants d'armes, c'est parce que la poésie est la seule arme qui leur reste.
Poète, vos papiers. Poète, vos papiers. J'ai bu du Waterman, j'ai bouffé les traits, et je repousse du goulot de la syntaxe à faire ce pas.
Hervé Gattegnaud, je ne sais pas si vous mangez du Waterman au petit déjeuner comme Léo Ferré. À demain pour la revue de presse, Hervé.
À demain.
À suivre, Luc Ferry pour Esprit Libre, Radio Classique, 8h39.
PFG sera toujours à vos côtés. Alors en cas de décès, appelez PFG au 3012 pour une prise en charge immédiate de jour comme de nuit. Urgence décès 3012, un service PFG.
Sophie Lemonnier-Valaise, violoniste et directrice musicale de Voyage d'Exception.
Voyage d'Exception, c'est le spécialiste des croisières musicales. Des voyages uniques, des bateaux haut de gamme et à taille humaine. Des fleuves majestueux, le Danube, le Douro, la Moldau ou encore la Seine. Une ambiance intimiste avec Jean-François Zigel, Philippe Bernold, Laurent Corsia, Dana Ciocarli et d'autres musiciens de renom qui partagent avec vous leur passion pour la musique.
Renseignements et réservations au 01 75 77 87 48 ou sur voyage-exception.fr.
Alors on entend de plus en plus parler de souveraineté numérique et vous nous présentez justement Private Discuss.
Private Discuss, c'est la solution de visioconférence. C'est ergonomique, c'est performant, cybersécurisé et surtout c'est 100% français. Nous garantissons la stricte confidentialité des données de nos clients, contrairement aux géants du marché.
Private-discuss.com, la visioconférence française. Merci beaucoup Sébastien Chabal.
Découvrez une oubliée de la médecine au Théâtre La Reine Blanche. La découvreuse oubliée, c'est Marthe Gauthier, pédiatre française qui a découvert la trisomie 21 en 1959, mais qui a été longtemps invisibilisée. Marie-Christine Barrault l'incarne dans la pièce d'Elisabeth Bouchot, mise en scène par Julie Timmerman, et qui raconte son combat pour faire reconnaître sa vérité. Avec aussi Marie Toscan, Mathilda Maliarakis et Mathieu Desfemmes au Théâtre La Reine Blanche à partir du 22 janvier. Renault.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prime maximum, certes énergie déduite, si accordiac. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Oui, voilà, c'est une lettre ouverte.
C'est une lettre ouverte. Voici Esprit Libre. Avec Luc Ferry, que vous entendez. On était en train d'évoquer ce qui vous amène aujourd'hui, Luc.
Oui, mon ami.
C'est une lettre ouverte d'intellectuels français qui exigent l'intervention de l'Europe en Iran pour venir en aide aux démocrates qui s'y font massacrer. Parmi les signataires, il y a évidemment vous, Pascal Bruckner, Elisabeth Lévy, Elie Chouraki, Manuel Valls, Georges Bensoussan, j'en passe, et des meilleurs. Finalement, assez peu d'artistes, notamment les artistes qui ont soutenu les Palestiniens par le passé, et encore moins d'intellectuels dits de gauche, ou en tout cas ceux auxquels on a traditionnellement affaire. D'abord, parlez-nous de cette lettre au président de la République pour qu'il intervienne. C'est si simple que ça?
Simple, non, mais enfin, on a quand même des services secrets, bon, qui ne sont pas uniquement fait pour faire sauter le Rainbow Warrior. Je pense qu'ils peuvent faire aussi autre chose. Donc, voilà, je plaisante à peine. Et donc, c'est vrai que les États-Unis interviennent. Ils sont intervenus, comme vous le savez, en juin dernier, donc avec ce bombardement des sites nucléaires iraniens. Et c'est très probablement cette intervention américaine qui a eu pour effet d'affaiblir considérablement le régime des Mollahs, de l'affaiblir suffisamment pour que le peuple prenne le relais, si je puis dire. Bon, et donc on aimerait que les Européens soient davantage présents dans cette affaire. Ce qui est très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai signé cette pétition. Les pétitions ne servent à rien, je veux dire, il faut
pétition
être honnête.
Pétition ou lettre ouverte, pour être
oui,
précis.
Oui, les lettres ouvertes signées par des personnalités de premier plan. Il y a aussi Elisabeth Badinter, Pierre-André Taguieff, il y a mon ami Elie Chouraki, bon. Et donc, qui d'ailleurs a fait une très bonne intervention sur Europe 1 pour dire, voilà, vous les people, il s'est adressé à ses collègues, bon, les artistes, les acteurs, les chanteurs. Elie Chouraki leur a dit, mais attendez, vous êtes mobilisés pour la Palestine, mais alors sur l'Iran, on vous entend plus, et notamment les féministes. Qu'est-ce que vous faites? Bon, c'était une bonne intervention qui était utile. Non, ce qui est intéressant, souvenez-vous, en 78, la révolution iranienne, Foucault publie une série d'articles dans le Corriere della Sera pour dire que c'est formidable, que c'est génial, que c'est une révolution magnifique. Et il y a un passage de son article qui est quand même absolument hallucinant. Il dit, rassurez-vous, j'ai vérifié, c'est pas la Déclaration des droits de l'homme française de 1789, c'est pas cette saloperie de déclaration. Non, non, c'est tout à fait autre chose. C'est une révolution spirituelle, religieuse, c'est magnifique. Bon.
Il faut s'arrêter un moment, Luc.
Non, ça vaut la peine.
Oui, non seulement, vous avez raison de vous y arrêter, mais je pense qu'il faut donner une explication à nos auditeurs. Qu'est-ce qui fascinait un esprit aussi brillant que Michel Foucault à la fin des années 70,
Je trouve très faux.
Quelqu'un qui comptait dans l'université, oui, dans la philosophie, qui avait écrit des textes importants. Sûr. Qu'est-ce qui fascinait chez ces intellectuels dits de gauche à l'époque, très proche évidemment de Jean-Paul Sartre, etc., dans la révolution iranienne?
Alors, je vous réponds, Jean-Paul Sartre, puisque vous le citez, va aussi faire le pèlerinage à Naufle-le-Château pour aller voir, avec une vingtaine d'intellectuels de gauche, aller voir personnellement le soleil de la révolution, c'est comme ça qu'il l'appelle.
L'Ayatollah Khomeini.
L'appelle le soleil de la révolution.
Naufle-le-Château dans les Yvelines.
Exactement. Alors pourquoi? Parce que c'est les damnés de la terre. Voilà, et c'est le moment où, au fond, le musulman va remplacer le prolétariat, si vous voulez. C'est cette histoire des damnés de la terre. Et au fond, ce sont ces... Et à l'époque, Foucault et Sartre sont maoïstes, donc ça va avec. Et donc, ce qui m'intéressait dans cette pétition qui a été rédigée par mon ami Daniel Salvatore Schiffer, et qui a été signée donc par des gens de gauche, il y a Onfray, il y a Eknolo, il y a Manuel Valls, il y a Taguieff, il y a Badinter, il y a Bruckner, il y a Chouraki, tous ces gens-là viennent de la gauche.
C'est la gauche non communautariste.
Exactement, ils sont devenus républicains. Le modèle, c'est Elisabeth Badinter, pour qui j'ai grande admiration, parce que ce sont des gens qui sont devenus universalistes et républicains, et qui du coup comprennent que, non, les damnés de la terre, c'est pas nos amis, voilà. Et que ce massacre des femmes, en particulier en Iran, est quelque chose d'abominable, et que ce que Foucault et Sartre défendaient de manière totalement absurde, on ne peut plus, même si on est de gauche, peut-être même surtout si on est de la gauche républicaine, on ne peut plus le défendre. Moi, je me souviens d'une discussion avec Jean-Pierre Chevènement, qui me prend par l'épaule et qui me dit, voilà, entre un vieux républicain socialiste comme moi et puis un vieux gaulliste comme vous, aujourd'hui, il n'y a plus une feuille de papier à cigarette. On est tous universalistes, on est républicains, et dans cette mesure-là, on n'est pas pour les communautarismes.
Est-ce que vous avez le souvenir, Luc Ferry, que la gauche intellectuel qui s'était réjoui de la révolution iranienne,
ouais,
parce qu'évidemment elle n'aimait pas le Shah d'Iran qu'elle estimait sponsorisé par les États-Unis, soutenu par la CIA. Est-ce que cette gauche intellectuelle a fait machine arrière quand elle a vu évoluer le régime iranien?
Non, jamais. Jamais. D'ailleurs, le propre de la gauche, c'était un peu... moi, je me souviens, j'avais écrit un livre avec Philippe Soler. Ce qui me frappait toujours chez ces maoïstes, donc Philippe Soler, c'était vraiment le pape du maoïsme, il avait toujours le petit livre rouge dans la poche, bon, c'est qu'ils avaient toujours eu raison. Et les maoïstes, notamment, ils invoquaient un argument pour dire qu'ils avaient toujours eu raison, c'est qu'ils avaient été maoïstes parce qu'ils étaient anticommunistes. Souvenez-vous pourquoi ? Parce que c'était le rapport Khrouchtchev, révisionniste, et donc eux, ils avaient gardé la flamme de la révolution qui était passée du côté de la Chine. Alors la vérité, c'est qu'ils étaient plus staliniens que Staline, mais ça leur permettait de dire, voyez, on est anticommuniste parce qu'on est anti-soviétique, donc on est pro-chinois, donc anti-soviétique, voilà.
Et pour eux, les pro-chinois n'étaient pas aussi impérialistes que les soviétiques ?
Ben non, c'était la vraie révolution, voilà. Ouais. Ça faisait 70 millions de morts, mais ils trouvaient ça formidable. Et je me souviens d'un texte, je ne vais pas la citer, la pauvre, elle est morte aujourd'hui. Mais voilà, on avait publié avec Evelyne Pizier un recueil de textes justement sur le totalitarisme stalinien. Et il y avait une dame qui était communiste et qui avait fait un papier disant, qui s'appelait « On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs ». Oui. Et l'omelette, c'était 70 millions de morts. C'était ça, la gauche, à l'époque. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des gens de gauche dans cette pétition, mais des gens de gauche qui sont devenus des républicains universalistes. Et au fond, voilà, entre ces gens de gauche républicains universalistes et un vieux gaulliste comme moi, ben, on se retrouve quand même très largement sur ces valeurs républicaines.
Qu'espère-t-il du président de la République quand ils lui écrivent d'intervenir, sachant qu'on a deux otages en Iran?
Otages, ils sont à l'ambassade, il risque pas grand-chose.
Oui, enfin, ouais. Quand même, il peut y avoir des dommages collatéraux.
Il y a
des risques.
Il y a probablement plus de 20 000 morts aujourd'hui, selon les organisations. Donc, nous, on a deux otages et on va pas bouger, parce, alors qu'il y a 20 000 morts et notamment des femmes qui sont massacrées. Non, c'est un manque de courage. Voilà, je pense qu'il y a des services secrets, il y a des moyens d'agir. Alors, ce qui est très difficile pour Trump et pour les États-Unis, tous les spécialistes, notamment les Israéliens, le savent, c'est très difficile d'intervenir à nouveau contre le régime iranien sans intervenir de manière extraordinairement massive. Parce qu'il faut détruire absolument tout le potentiel de missiles qui pourraient arroser non seulement Israël, mais aussi les monarchies du Golfe. En particulier, Doha a très peur, il y a des bases américaines. Donc, l'intervention américaine serait aujourd'hui une intervention extraordinairement lourde. Pas évident.
Luc Ferry, on a parfois le sentiment que le soutien aux Iraniens ou aux Iraniennes en révolte contre le régime est plus parfois dirigé contre la gauche française, la gauche communautariste qui se manifeste pas.
Et les filles, oui.
Qui a un problème de timing parfois. Oui. Que c'est autant pour la mettre dans son viseur que pour soutenir les libertés. C'est-à-dire qu'on règle des comptes en se servant d'une cause étrangère. C'est pas le procès d'intention que je vous fais, mais finalement ça revient au même. Ça crée des clivages
nationaux. Non, vous avez raison. Moi, je l'assume tout à fait. Je pense que c'est le rôle des pétitions, la pétitionnite qui est une caractéristique typiquement française, hein, qui est liée d'ailleurs au fait que la notion d'intellectuel est une notion typiquement française. Moi qui ai vécu beaucoup en Allemagne, aux États-Unis, ça n'existe pas l'intellectuel. Il y a des philosophes, il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des psychologues, il y a des scientifiques, il y a des physiciens. Intellectuel, ça n'existe pas. Et donc, vraiment, l'histoire intellectuelle française. D'ailleurs, c'est pas au moment de l'affaire Dreyfus qu'on invente le terme, contrairement à ce qu'on croit. C'est Saint-Simon qui invente le terme d'intellectuel. C'est beaucoup plus ancien. Et donc, cette histoire, l'intellectuel français, c'est d'abord et avant tout un moraliste. C'est quelqu'un qui prend position dans la sphère politique, dans la sphère morale, et qui n'est pas forcément d'ailleurs un philosophe. Loin de là, d'ailleurs, très souvent, c'est pas des philosophes. Et donc, la pétitionnite, elle est liée à ça. Et donc, il est évident qu'une pétition ou une lettre ouverte, elle sert surtout, ça va pas faire évoluer considérablement le régime des Mollahs, hein, ils en ont absolument rien à foutre. Mais en revanche, ça permet de prendre position par rapport à l'échiquier politique et moral français.
Je vais vous poser une question complètement tordue en essayant de faire le lien entre ce que vous venez de nous expliquer et le forum économique de Davos qui commence aujourd'hui. Vous avez une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement, une myriade de consultants, d'essayistes, d'économistes, d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs.
Ils sont 30 milliardaires, oui.
Donald Trump fera sans doute un discours qui sera remarqué, de même que son opposant démocrate numéro 1, Gavin Newsom, qui est invité, c'est le gouverneur de Californie. Ma question est simple et je la mets en parallèle avec les pétitions, les lettres ouvertes d'intellectuels, les mouvements intellectuels au service de grandes causes. C'est les idées qui sauvent le monde ou c'est le commerce ou la finance ?
Non, aujourd'hui, c'est la tech, il faut être très clair. Ce qu'il y a derrière la puissance américaine, c'est d'abord et avant tout la tech. C'est la Californie. Ensuite, il y a évidemment l'économie et le militaire. On en parlait la semaine
attendez,
dernière.
Attendez. C'est pas ce qui domine le monde, c'est qui sauve le monde.
Ah, sauver, ça, c'est autre chose.
C'est ma question.
Non, mais est-ce que Trump sauve le monde?
Est-ce que c'est le commerce entre les nations? Est-ce que c'est le fait que tout le monde ait intérêt à faire du commerce, à faire des profits? Non, est-ce que c'est ça qui sauve le monde et qui peut encore le sauver? Ou est-ce les idées?
Non, la thèse libérale, c'est que le commerce n'est pas simplement un commerce de l'argent, c'est aussi un commerce des personnes, un commerce des âmes, comme on disait. Mais c'est pas ça qui aujourd'hui donne la puissance, qui permettrait éventuellement de sauver le monde si elle était en de bonnes mains. La puissance, et c'est ce qui fait que l'Union européenne ne peut pas rétorquer véritablement, elle ne peut pas répondre à Trump, c'est que Trump, il a les trois puissances fondamentales. La puissance militaire, c'est la plus grande armée du monde. Il a la puissance technologique, la tech américaine est absolument géniale. Et puis, il a la puissance économique. Et nous avons perdu les trois. Et donc, du coup, on s'agite, Macron monte ses petits muscles. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut absolument rien faire.
Luc, merci. Nous allons nous séparer, je vous dis, à la semaine prochaine, évidemment.
Il faut qu'on retrouve notre souveraineté pour y arriver, militaire et technologique, pour pouvoir nous opposer aux États-Unis. Mais tant qu'on n'a pas ces deux souverainetés, on peut rien faire.
En attendant de retrouver notre souveraineté, on va retrouver Carmen et juste derrière, Franck Ferrand qui va nous en parler.
C'est pas mal non plus.
Allez, on écoute un extrait de Carmen et puis on fera un passage d'antenne avec Franck, un passage augmenté, si j'ose dire.
Radio Classique vous fait vivre les plus beaux concerts classiques aux côtés de Laure Maison et Jean-Michel Duez.
Le trio de Piotr Tchaïkovski, ce trio en la mineur, opus 50, composé à la mémoire du pianiste Nikolaï Rubinstein, une œuvre dont vous avez pu apprécier ce soir l'intensité, la force émotionnelle, le lyrisme, mais aussi la fougue. Et vous pouvez entendre le bonheur, l'enthousiasme du public.
Des concerts inoubliables, chaque week-end à 20h, sur Radio Classique.
Radio Classique. Vous êtes bien avec Radio Classique.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous échos de la matinale de Radio Classique.
Depuis 50 ans, vous accompagnez face aux enjeux de la vie des affaires et la vocation de Del Sol Avocat. À l'écoute des besoins des acteurs de l'économie, nous proposons au-delà des conseils juridiques et judiciaires, une véritable stratégie d'entreprise. Del Sol Avocat, la qualité de la relation. Et avec Del Sol Avocat, retrouvez les voix de l'économie chaque matin sur Radio Classique.
Aesio Mutuel présente. Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, hein, elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui.
Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Ah, chez Air Caraïbes, ils ont du XXL.
Du XXL ?
Eh oui, confort XXL pour voyager en classe premium économie dès 999€ ou en classe affaires à partir de 1499€.
Pour aller où ?
Guadeloupe, Martinique, bref, toutes les destinations Air Caraïbes. Tu vois, je te l'avais dit que j'avais besoin du XXL.
XXL pour la classe, le siège et le service aussi.
Jusqu'au 22 janvier 2026, profitez des instants promo d'Air Caraïbes et voyagez avec un confort XXL. Rendez-vous sur aircaraïbes.com. Offre soumise à condition.
Air Caraïbes, la compagnie haute en couleur.
Les ETI sont essentiels dans la transformation durable de nos vies. Comment ? Réponse avec Grâce à nos ETI, chaque mardi à 7h29 avec Fabrice Lundy sur Radio Classique. Un programme proposé par KPMG, cabinet leader de l'audit et du conseil en France, engagé à agir pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable.
À suivre la météo, les infos et Franck Ferrand.
Être libre. Libre d'entreprendre, de donner vie à ses projets, d'investir dans ce qui compte. Être libre, c'est aussi dépenser son argent sans se justifier. Bougardier présente le PLP, le prêt libre patrimoine. Grâce à la valeur de votre patrimoine immobilier, le PLP vous permet de libérer une trésorerie de confort à partir de 100 000€. Avec le PLP, votre argent vous obéit enfin. Découvrez le nouveau prêt libre patrimoine sur bougardier.fr. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Pierre Pilet. Oui. Vous nous annoncez des pluies soutenues près de la Méditerranée, oui.
Oui, à tel point que les deux départements Corse, les Pyrénées-Orientales et l'Aude sont placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo France. Ailleurs, dans la moitié sud ainsi que dans le nord-ouest, c'est un temps gris et de possibles faibles averses au programme. Des éclaircies peuvent faire leur apparition dans le nord-est et en Île-de-France aujourd'hui. Les températures maximales 9 degrés à Lyon, 11 à Lille, Alençon et Toulouse, 12 à Paris, 15 à Marseille.
Franck Ferrand, bonjour.
Bonjour mon cher David.
Le 19 février, vous nous préparez quelque chose, Salle Gaveau.
Eh oui, on n'en a peut-être pas fait suffisamment de concerts Salle Gaveau cette année, donc je suis très heureux de retrouver notre cher public. C'est le 19 février, effectivement, et on va parler de Bizet. Pas seulement de Carmen, même si on va entendre beaucoup d'extraits de Carmen, parce que j'ai deux fabuleux interprètes sur scène, je vais vous en dire un mot. Mais nous allons parler aussi d'autres compositions de Bizet, beaucoup moins connues. Jamilet, par exemple, qu'on ne connaît presque pas, ou encore moins connu, le Ivan IV, qui n'a, somme toute, jamais été présenté au public.
Mais ma curiosité est telle, comment ça se passe sur scène? Vous êtes flanqué des deux chanteurs.
Alors, il va y avoir ces deux chanteurs.
Ils sont avec vous, il y a un piano, comment ça se passe?
Alors, il y a un piano avec notre cher Antoine Paloc. Il y aura Eugénie Jonot, une mezzo qui fait énormément parler d'elle et qui est une Carmen, vous allez voir, enflammée. Et Julien Henrique, un grand ténor. Ce sont de jeunes chanteurs, mais qui sont la grande relève, si je puis dire. On a beaucoup parlé d'eux aux Victoires de la Musique, dans toutes sortes de concours. Et puis, il y a surtout l'invité qui va être en quelque sorte l'invité d'honneur de la soirée, qui va être l'Arlésienne, c'est le moment ou jamais d'employer l'expression, c'est Bizet lui-même.
Et donc vous racontez Bizet, et vous alternez avec des chants de l'un et l'autre de ces deux artistes lyriques.